Bang Bang.
Double Bang Company.
Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Jérôme Bondu, expert depuis plus de 20 ans en intelligence économique, directeur du cabinet Inter Liguéré, et on va parler d'influence digitale. Je suis Rizelle Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Jérôme.
Hey, bonjour Ghislaine, tu vas bien?
Ça fait plaisir de te retrouver.
Eh bien écoute, très très bien, ravi de te retrouver.
Je veux commencer par te dire merci. Tu es le premier à m'avoir dit oui pour enregistrer un podcast en août 2021, la première interview accordée pour Mon œil.
Merci, mais écoute, c'est un plaisir toujours.
Jérôme, comment l'analyse des réseaux sociaux peut aider à identifier les risques et les opportunités sur un marché donné?
Alors, les médias sociaux sont une sorte de réduction de la réalité, on est bien d'accord. Hein. Tout comme quand tu analyses un marché, tu peux utiliser la presse classique, hein, la presse quotidienne ou la presse hebdomadaire. Tu peux utiliser des bases de données professionnelles, tu peux utiliser ton réseau relationnel, c'est-à-dire les personnes que tu connais. Tu peux utiliser les chambres de commerce, tu peux utiliser toute une série de structures. Et donc, chacune de ces structures va transporter une partie de la réalité. Les médias sociaux vont avoir des caractéristiques spécifiques qui sont que tu vas avoir un accès parfois de première main, c'est-à-dire que tu as un acteur du marché, client potentiel, donc un prospect ou un concurrent ou quelqu'un qui est un fournisseur potentiel qui va dire quelque chose. Il va le dire en direct sur un média social, sur Twitter par exemple, enfin X, d'accord? Donc tu as un accès direct à l'information. Donc c'est un point positif, cet accès direct. Très bien. Mais à côté de ça, tu vas pouvoir aussi avoir plein de informations. Des personnes qui vont dire des choses qui vont être assez délirantes sur le marché en question. Tu peux avoir des personnes qui vont soit promouvoir le marché pour tel ou tel objectif ou qui vont avoir une présentation négative de ce marché. Donc, j'ai envie de dire que les spécificités des médias sociaux dans la compréhension du marché résident d'une part dans l'accès direct, d'autre part dans l'obligation de devoir faire une analyse plus forte, vu qu'il n'y a plus une analyse des journalistes, personnels de la chambre de commerce, des bases de données professionnelles. Donc, accès direct d'une part, obligation de faire une analyse complémentaire d'autre part, et obligation pour toi d'avoir une compréhension fine des jeux d'acteurs. En gros, c'est plus intéressant, mais plus compliqué. Et c'est pour ça que les outils de veille, tu sais que c'est ma spécialité, hein. Moi, je suis avant tout un consultant et quelqu'un qui met en place des outils de veille, qui forme aux outils de veille, qui forme aussi aux techniques de recherche d'informations. Donc, mon métier, c'est d'aider mes clients à avoir cet accès direct aux informations tout en renforçant les capacités d'analyse et le recul critique. Ce qui n'est pas évident, ce qui demande une véritable expertise.
L'analyse des réseaux d'influence peut-elle aider à identifier les points d'entrée pour une campagne d'influence?
Alors, quand on travaille au niveau de l'influence, on commence souvent par une cartographie des acteurs. Alors, cette cartographie des acteurs, elle-même, nécessite une détection des acteurs, ce qui est logique. Donc, premier temps, on détecte les acteurs. Sur mon blog, j'ai fait pas mal de démonstrations d'ailleurs, de recherche d'acteurs influents dans un domaine, puis de cartographie de ces acteurs. Donc là, généralement, c'est la recherche d'informations sur des moteurs de recherche. On peut aussi utiliser encore une fois le réseau humain, on peut utiliser encore une fois la presse, etc. Donc, on détecte les acteurs. Ensuite, on va les analyser selon différents angles. Par exemple, partenaire opposant, actif passif, tu vois. Et en fait, on peut tout à fait noter chacun des acteurs, selon ces deux angles, ben, sont-ils partenaires ou opposants? On va les mettre, par exemple, de 1 à 10 s'ils sont partenaires et on va les noter de moins 1 à moins 10 s'ils sont opposants. Et après, on va faire la même chose sur le degré d'activité. On peut les noter de plus 1 à plus 10 s'ils sont actifs, de moins 1 à moins 10 s'ils sont inactifs. Et puis, on peut rajouter une troisième colonne dans son tableau, qui est l'influence. Donc, on va avoir comme ça le positionnement, partenaire opposant, l'activité, actif passif, et l'influence. L'influence, pareil, peut être notée de 1 à 10. Et à partir de ces trois, moi, j'appelle ça des variables. À partir de ces trois variables, tu vas pouvoir cartographier les positions et avec un outil, avec un tableur, comme Excel par exemple, ou Google Sheet, tu vas pouvoir avoir des très jolies cartographies. Encore une fois, j'en ai fait plein dans mon blog. Mon blog, c'est inter.traitdunionligueret.fr. Donc, tu vas faire des cartographies très parlantes des acteurs en présence. À partir de ce moment-là, tu vas étudier quels sont les acteurs qui sont les plus propices pour toi pour être un point d'entrée. Et tu vas envoyer des informations, tu vas rentrer en contact, tu vas influencer ces personnes de telle manière à ce qu'elles soient pour toi, ben voilà, le meilleur point d'entrée dans le cadre de ta stratégie. Donc cette démarche, si tu veux, elle est très connue, c'est ce qu'on fait en lobbying par exemple. Elle est très connue, elle est très segmentée, je vais pas dire qu'elle est facile, mais en tout cas elle oblige à respecter un certain nombre d'étapes.
Quels outils et logiciels peuvent être utilisés pour cartographier les réseaux d'influence?
Alors, comme je viens de te dire, tu vois, tu peux à la base utiliser un tableur. C'est jouable, hein, y a pas de problème. Tu fais déjà un bon travail. Après, il y a un outil que j'aime assez bien qui s'appelle Node Excel, N-O-D-E-X-L, qui est un outil gratuit qui se télécharge et qui permet de faire ce qu'on appelle un graphe, donc un réseau de personnes. C'est intéressant parce que tu vas pouvoir, par exemple, télécharger depuis Internet des gros volumes d'informations. Par exemple, l'ensemble des personnes qui sur Twitter X ont parlé de tel ou tel sujet. Donc tu vois, tu télécharges ça, tu peux avoir 100, 200, 300 lignes, même plus, 1000 lignes, 2000 lignes, et tu vas pouvoir ensuite intégrer ça dans Node Excel. La spécialité de Node Excel, c'est justement la cartographie des acteurs et des relations entre les acteurs. Donc c'est un deuxième outil. Troisième outil, j'aime aussi assez bien l'outil qui s'appelle GEPHI, G-E-P-H-I. GEPHI, c'est un outil qui nécessite un petit peu de technicité, mais qui va pouvoir cartographier plusieurs dizaines de milliers de points, centaines de milliers de points. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des limites, en fait. Et c'est un outil que tu vas pouvoir paramétrer de telle manière à faire varier la taille de la bulle, à faire varier la taille des étiquettes. C'est un outil vraiment professionnel, bien que, comme les autres, hein, bien qu'il soit gratuit, qui nécessite aussi un enregistrement. D'ailleurs, il faut l'enregistrer sur son ordinateur. En voici trois, et puis bien sûr, on ne va pas oublier notre ami ChatGPT, qui est dans la version payante, donc version payante 4, a intégré une solution qui s'appelle Data Analysis, Advanced Data Analysis, et qui permet, quand tu intègres un tableur, en Excel ou en CSV ou autre, quand tu intègres un tableur, de pouvoir cartographier les éléments. Alors, le grand avantage de ChatGPT, c'est que tu vas pouvoir, sans même bien comprendre la structure de ton tableur, tu vas pouvoir rentrer en conversation et dire « Analyse-moi le contenu du tableur », il va te dire. Ensuite, tu vas faire un prompt du style « Bon, très bien, alors tu vas me cartographier tel élément », il va te faire la cartographie, et tu vas pouvoir dire « Non, mais attends, tu vas grossir les bulles de tel ou tel truc », et là encore, dans mon blog, j'ai fait un test assez éloquent, où sur Internet, sur la base d'une requête qu'on appelle une Google Doc, c'est-à-dire une requête un petit peu spécifique qui va trouver des éléments, on va dire un petit peu masqués, un petit peu cachés. Donc sur la base d'une Google Doc, j'ai trouvé un tableur de 22 000 lignes, ce qui est quand même beaucoup, hein. J'ai intégré ce tableur dans ChatGPT-4, et j'ai demandé à la fonction Data Analysis de m'analyser le contenu, de me proposer les cartographies les plus intéressantes, et il l'a fait. Donc tu vois là, tu as quatre outils, depuis le classique Excel, en passant par Node Excel, puis GEPHI, puis la fonction cartographique de ChatGPT, on a quand même pas mal de choses sous la main.
Quels indicateurs clés de performance peuvent être utilisés pour mesurer l'impact d'une campagne d'influence ?
Les critères d'évaluation d'une campagne dépendent de la campagne, dépendent du milieu, dépendent de, tu vois, ça dépend de plein de trucs. J'ai envie de dire que si tu veux projeter des informations, ben, le nombre de retombées dans les médias sociaux, c'est un premier critère. Donc, dans X, dans LinkedIn, dans Facebook, sur Insta et sur d'autres choses. Mais la quantité numérique de retombées, alors bien sûr on peut intégrer la presse aussi, hein. Le comptage statistique des retombées, ça n'est qu'un élément, et en plus c'est très quantitatif. Après on peut rajouter du subjectif, c'est-à-dire de l'analyse des retombées. Est-ce qu'on en parle en bien ou en mal? Est-ce que c'est quelque chose qui va donner lieu à une action d'achat, par exemple, de la part des prospects? Et là, je vais reparler de ChatGPT. Il y a des tests que je me suis amusé à faire qui sont tout à fait éloquents. Je vous présente, je dis vous, parce qu'on se tutoie, mais je dis vous pour m'adresser au public qui nous écoute. Alors, on peut utiliser ChatGPT dans ChatGPT. Ok, très bien. On peut aussi utiliser ChatGPT dans des outils tiers. Il suffit d'avoir un accès à ce qu'on appelle l'API, Application Programming Interface. Et on peut créer un lien entre Google Sheet et ChatGPT. Donc, imaginez que ce lien soit fait et qu'on puisse donc interroger ChatGPT via Google Sheet. Maintenant, imagine que tu fasses une requête dans X et tu dises « Je veux savoir tous ceux qui ont parlé de moi. » Donc, par exemple, en ce qui me concerne, la société Interliguéré. Donc, je fais hashtag Interliguéré ou Interliguéré hors Jérôme Bondu et j'obtiens des résultats. Imagine que je copie ces résultats et que je les mette dans mon Google Sheet. Donc, j'ai un comptage statistique. Je vais voir par exemple que sur les dernières semaines, X personnes ont parlé de moi. Très bien. À nouveau, on est dans le comptage statistique, mais je vais pouvoir rajouter un élément de type analyse de tonalité avec la formule suivante. Donc, j'ai mis tout ça dans une colonne. Colonne d'après, je vais appeler la fonction ChatGPT. Alors, je sais qu'à l'oral, c'est pas très très facile à expliquer et tout ça est très très visuel. Donc, j'imagine que les personnes qui m'écoutent doivent se gratter un petit peu la tête, mais néanmoins, c'est très très simple. Il suffit d'appeler la fonction ChatGPT dans Google Sheet et de mettre dans un prompt « Analyse-moi la tonalité de ce qu'il y a dans la colonne précédente ». Et ChatGPT va analyser la tonalité de tous les tweets et pouvoir dire « c'est positif, c'est négatif, c'est neutre ». Ce qui fait que, pour répondre à ta question, tu peux avoir en même temps du quantitatif et en même temps tu peux avoir du qualitatif comme critère et tu peux avoir donc une analyse de tonalité. Alors encore une fois, tout ceci est un petit peu technique, mais c'est bien pour ça qu'il faut se faire accompagner par voilà des professionnels du domaine et c'est des choses qui doivent absolument être intégrées dans les entreprises et notamment dans les directions communication parce que c'est un changement de pratique qui fait gagner du temps, qui est peu coûteux et qui est globalement très efficace.
Comment s'adapter aux changements rapides des technologies et des pratiques en matière d'influence digitale ?
Ta question essentielle, alors faut-il s'adapter ? Oui, comment s'adapter ? Puisque ta question pose sur le comment, comment s'adapter ? Bah écoute, ça va vite. Nous sommes dans un monde où les modifications de pratiques sont les modifications d'outils sont constantes et il faut être d'une part en veille permanente dans ces domaines d'activité et d'autre part ne pas hésiter à se faire accompagner encore une fois, c'est-à-dire soit par du conseil, soit par de la formation, ça fait gagner quand même un temps extrêmement important. Je pense que je caricature bien évidemment, mais au Moyen-Âge, quand tu étais enfant de forgeron, tu étais forgeron et les pratiques pour forger le fer n'avaient pas changé sans doute depuis les 500-800 000 dernières années. Tu vois. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est-à-dire, on peut pas utiliser les pratiques, ne serait-ce que d'il y a 10 ans ou 20 ans. La manière de rechercher, de veiller, d'analyser, d'influencer n'est pas du tout la même. Et donc, il faut pouvoir se tenir au courant, il faut pouvoir quelque part absorber les nouvelles pratiques. D'ailleurs, au-delà des pratiques, j'ai envie de dire que notre état d'esprit d'ailleurs en lui-même doit changer. C'est-à-dire qu'on doit se mettre en position d'ouverture, de flexibilité, on doit se mettre en position de pouvoir évoluer constamment. C'est-à-dire qu'on doit être plus mobile, en quelque sorte. Et de toute façon, on le sait bien, dans les révolutions, nous vivons une révolution, hein, on en avait parlé lors du dernier podcast, on vit une révolution numérique, la mobilité était essentielle. Et on doit tous être mobiles, adaptables.
Comment se protéger contre les risques de manipulation et de désinformation sur les réseaux sociaux ?
Alors, comment se protéger contre les risques de manipulation ? J'ai envie de dire la première des choses, c'est encore une fois, je reviens toujours sur les fondamentaux, mais c'est encore une fois, ce sont des fondamentaux, donc c'est fondamental, c'est de mettre en place une veille. C'est-à-dire que pour faire face aux risques de manipulation, mettre en place un système qui t'informe de manière qualitative sur les choses qui t'intéressent est essentiel. Alors le problème, c'est la surinformation. Et bien dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est mettre des filtres pertinents, des filtres adéquats pour avoir les informations, par exemple, qui viennent de personnes autorisées ou qui ont une autorité ou qui ont un savoir. Un premier élément. Deuxième élément, c'est plus personnel, c'est avoir une capacité de recul critique et connaître ses biais cognitifs. Voilà, il me semble qu'on en avait parlé même lors du tout premier podcast, la connaissance des biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs de raisonnement, est essentielle. On est tous influençables. On connaît tous des techniques d'influence et les enfants le font naturellement. Je vais te donner un exemple. Allez, top chrono. Ça va Ghislaine, tu vas bien ?
Oui, très bien. Et toi ?
Ouais, ouais. T'as fait un super boulot franchement avec tous ces podcasts. C'est vraiment très très chouette. Et t'es contente de toi ?
Oui.
Oui, j'imagine que oui. Et tu vas continuer ?
Oui.
Ouais, ben c'est super. Dis-moi, j'ai un petit service à te demander. Pour le prochain, est-ce qu'on pourrait pas plutôt orienter sur telle ou telle chose ?
Comme tu veux, Jérôme.
Fin de la petite scène. On arrête là. C'est-à-dire que là, en quelque sorte, ce que j'ai fait, c'est la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire que j'essaye d'obtenir des oui successifs, même à des choses qui sont classiques ou anodines. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait ? Est-ce que tu vas continuer ? Oui, oui, oui. Et quelque part, ça augmente les chances que tu répondes oui à ce qui est ma demande cible, c'est-à-dire mon objectif. Eh bien, voici un exemple de manipulation, bien connu des commerciaux. D'accord ? Il y en a plein des comme ça. Il y a la porte au nez, il y a le piège abscon, il y a l'escalade d'engagement, il y a le biais d'ancrage. Et on va faire un petit jeu, un deuxième petit jeu. Dis-moi, Ghislaine.
Oui ?
À ton avis, une baleine bleue mâle adulte, toi, donc c'est C'est énorme. Est-ce que ça mesure plus ou moins que 150 mètres? Une baleine bleue, est-ce que c'est plus ou moins grand que 150 mètres? Donc, alors, vas-y, dis-moi.
Je ne sais pas, moi.
C'est moins que 150 mètres, t'es sûr?
Franchement, j'en ai aucune idée.
Bon, d'accord, très bien. Mais alors, vas-y, donc, maintenant, essaye de deviner la taille d'une baleine bleue.
Oula!
Intuitivement, comme ça, là.
Je n'ai pas l'habitude de voir des baleines bleues, Jérôme.
Bah, mais oui, mais moi non plus, mais vas-y, 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 dis un chiffre. Et tu coupes pas au montage, hein?
Je dirais 150 mètres, parce que tu dis 150 mètres.
Ouais, d'accord. Donc en fait, généralement, quand on pose ce type de questions, les personnes ont tendance à donner une valeur qui est supérieure à la moyenne. Comme j'ai fait un ancrage à 150 mètres, les gens vont dire, bon bah 40 mètres, 45 mètres, 50 mètres. Une fois, j'ai entendu 80 mètres. On ne peut pas imaginer une baleine de 80 mètres. Simplement, cet ancrage sur une valeur haute fait que les personnes vont avoir tendance à donner des chiffres élevés. Et quand tu fais ce test avec...
Alors, elle mesure combien ta baleine bleue?
Ah, c'est 30 mètres environ, tu vois. Mais quand tu fais ce deuxième test avec une autre valeur qui est 17 cm, tu dis, est-ce que, à ton avis, une baleine, c'est plus ou moins grand que 17 cm? Les personnes interviewées vont avoir tendance à minorer la valeur. Ils vont dire, ouais, mais une baleine, ça fait quoi? Ça fait 15 mètres, tu vois, 15, 17, 18, 20 mètres. Voilà. Et donc, ce que je viens de faire là, c'est un deuxième biais qui est un biais d'ancrage. J'ancre. Et c'est ce que font les commerciaux, regarde. Ghislaine, moi, je fais des formations en intelligence économique et en intelligence artificielle. Comment utiliser l'IA générative pour rechercher, veiller, analyser. Et Ghislaine, mes formations, figure-toi qu'à la journée, c'est pas 10 000 euros, c'est pas 5 000 euros, c'est 650 euros par personne et par jour. Tu te rends compte? C'est pas cher. Hein.
Incroyable.
Voilà. C'était un troisième exemple. Et ben ça, c'est un biais d'ancrage. C'est-à-dire que j'ancre ta réflexion sur des valeurs hautes pour finalement arriver à quelque chose qui va te paraître très bas, donc très intéressant. Je termine ma réponse. Donc, Ghislaine, si tu veux pouvoir faire face aux manipulations, d'une part, il faut que tu aies des techniques de veille qui font que tu t'alimentes en information, il faut que tu puisses faire confiance à des tiers, et il faut que toi-même, tu aies des capacités d'analyse qui passent par une bonne maîtrise, une bonne connaissance des biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs de raisonnement et des choses qui font qu'on peut, on puisse facilement te manipuler. Et j'ai donné plusieurs exemples dans le cadre de petites scènes rigolotes de quelques minutes. On a fait le biais d'ancrage, on a fait le pied dans la porte, et voilà, il y en a plein d'autres. Tout ceci est essentiel. Et on vit dans un monde d'influence, et la maîtrise de ces techniques de recul critique sont essentielles. On devrait les apprendre à l'école.
Exactement. Merci Jérôme, à bientôt.
Merci à toi.
Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. À bientôt. Ciao, ciao. Bang, bang. Double Bang Company.